J'aimerais parler sur comment réagir dans une situation sans issue. Dans Exode, chapitre 14, verset 1er, il est écrit « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tsephon. C'est en face de ce lieu que vous camperez, près de la mer. Pharaon dira, des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra, mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors, le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, « Qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services ?» Et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous les combattants, tous des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis, la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux et les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignirent, campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tsephon. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert ? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte ? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte ? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous, gardez le silence. Amen. » Nous nous retrouvons parfois dans des situations sans issue, des impasses. Il semble qu'il n'y a aucune porte de sortie, aucun chemin. La situation est bloquée, c'est peut-être au niveau du travail. On n'a pas eu l'avancement, on n'a pas eu le poste espéré ou alors un projet immobilier. On voulait acheter une maison et la porte s'est fermée. On a prié, on a jeûné, on a cherché la face de Dieu. Et pourtant, la situation est bloquée. La situation est comme une impasse, on ne peut plus avancer. Que faire dans les situations sans issue ? D'abord, nous devons apprendre que les choses en fait, qui nous arrivent, nous ne pouvons pas les changer par nous-mêmes. Et nous devons apprendre à nous décharger sur le Seigneur de tous nos soucis, de tous nos fardeaux, et de nous reposer en Dieu. Il y avait donc pour le peuple ici une situation qu'ils ne pouvaient pas changer. Il y avait une immense masse d'eau, qu'on appelle la mer Rouge, qui les bloquait. Ils ne pouvaient donc plus avancer et ils ne pouvaient plus reculer puisque les Égyptiens les encerclaient. Donc, dans ce genre de circonstances, nous devons apprendre à faire confiance à Dieu et à remettre notre sort entre les mains du Seigneur, sachant que lui, il aura une solution et peut-être il a déjà, en fait, la solution ou l'issue que nous ne connaissons pas. J'aime bien ce verset de 2 Corinthiens 4, 8. C'est Paul qui le dit. Alors, ça ne ressort pas trop dans la version française. Je vais vous la lire en français. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir. Et cette deuxième partie, en fait, dans l'original, littéralement, c'est écrit, quand c'est traduit dans la détresse, mais non dans le désespoir, littéralement dans le grec, c'est dans une impasse, mais pas totalement une impasse. Ça, c'est littéral. Dans une impasse, mais pas totalement dans une impasse. Et on peut se retrouver dans une impasse et on peut dire ce soir qu'on n'est pas totalement dans une impasse. Parce que Dieu connaît le moyen de sortir de cette impasse. Et il va nous le révéler en son temps. Donc nous, notre part, c'est de patienter, de prier, jusqu'à l'intervention de Dieu, parce que le peuple ne pouvait rien faire contre la mer Rouge, il ne pouvait rien faire contre les Égyptiens, mais il pouvait s'attendre à la main de Dieu et à la grâce de Dieu. Et c'est ainsi que nous allons voir le bras de Dieu agir. Quand nous sommes dans l'impasse, on n'est pas totalement dans l'impasse. Le premier point, c'est d'abord le détour que Dieu fait faire au peuple. Le détour que Dieu fait faire au peuple. C'est dans Exode, alors c'était juste un petit peu avant, au chapitre 13. Donc on a commencé au chapitre 14, verset 1. Mais si vous remontez au chapitre 13 et au verset 18, « Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. » D'abord, c'est Dieu qui fait faire un détour au peuple. Ce n'est pas le peuple qui s'est perdu, qui s'est égaré, qui a fait un détour. C'est vraiment la volonté de Dieu. Ils sont dans la volonté de Dieu. Et Dieu leur fait faire un détour. Et frères et sœurs, on peut être conduit par Dieu, dans la volonté de Dieu. Et Dieu peut nous amener sur un détour qu'on n'a pas pensé. On pourrait penser que c'est inutile. D'ailleurs, si vous regardez sur une carte, en fait, ils vont à l'opposé du pays de Canaan. Ce n'était pas le chemin le plus direct. Et ça semblait, humainement parlant, être une perte de temps et être inutile. Mais Dieu avait un plan. Il fallait qu'ils aillent adorer sur la montagne, à Horeb. Il y avait une direction avant d'aller dans le pays de Canaan. Nous, on sait tous que si le plan de Dieu, c'est que nous allions dans le pays de Canaan, donc il y avait une ligne assez directe, ça aurait pu être fait en quelques jours, on était là dans le pays de Canaan, c'était à côté de l'Égypte. Eh bien, en fait, nous savons depuis que nous sommes allés à l'école que le point le plus court, ce qui est le plus court entre deux points, c'est donc la ligne droite. Or, Dieu leur fait faire une sorte de détour pour aller au même endroit, mais un détour très important. Ce n'est pas comme un petit détour. C'est un détour qu'ils vont à l'opposé de la direction et ils vont aller carrément au sud alors qu'il faut aller de l'autre côté. Donc Dieu sait ce qu'il fait. Et en fait, on apprend en lisant tout le passage, on n'a pas eu le temps de tout lire, mais que Dieu révèle la raison pour laquelle il leur fait faire un détour. Il dit à Moïse, si il prenait la route la plus courte en longeant la mer, il rencontrerait les Philistins et il serait découragé et il rentrerait en arrière. Il ferait demi-tour. Et si Dieu nous fait faire prendre un détour, c'est qu'il y a une raison. Le peuple ne saisit pas toujours, nous ne la saisissons pas toujours, la Bible nous le révèle ici, on n'a pas toujours la révélation, mais si Dieu nous fait faire un demi-tour, Dieu sait ce qu'il fait, même si nous on pense qu'on aurait mieux fait d'aller tout droit, il faut mieux obéir à Dieu et faire le détour. Que faire quand on est dans un détour? D'abord, c'est l'école de Dieu, parce qu'avec Dieu, on apprend tout le temps. On apprend dans les détours, on apprend dans le temps qui passe. Et puis, dans un détour, c'est l'occasion d'apprendre encore le fruit de l'esprit. C'est l'occasion d'apprendre encore des choses sur Dieu. C'est l'occasion d'apprendre encore à s'attendre à Dieu, à faire confiance à Dieu, à réaliser que c'est Dieu qui conduit, c'est lui le maître, et nous sommes ses serviteurs. Quelque part, le détour nous humilie et nous apprend à dépendre encore plus de Dieu. Donc ça, c'était le premier point. Dieu nous fait faire parfois des détours. Deuxième point, Dieu a un plan. Exode 14, verset 4, on a lu tout à l'heure ce verset. Et ce qui est bien, je trouve, et ce n'est pas toujours le cas, mais dans ce texte c'est le cas, c'est que là, Dieu révèle son plan en plus à Moïse. Il lui révèle son plan, il lui dit « J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. » Il parle du peuple. « Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. » Et les enfants d'Israël firent ainsi. Donc Dieu révèle en quelque sorte que Pharaon, les Égyptiens, vont se dresser contre eux, vont les poursuivre, mais ne craignez rien. Le peuple d'Israël, le peuple égyptien, servira à faire éclater ma gloire. Donc, ça se conclut bien. Et en plus, Moïse, il sait tout à l'avance, finalement, là. Il sait qu'il va y avoir, donc, un contretemps, que Pharaon va changer son cœur, qu'il va revenir pour les poursuivre et essayer de les arrêter, mais que, de toute façon, Dieu va faire éclater sa gloire, il n'y aura pas de problème. Les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Donc, on a vraiment l'issue favorable, quoi. Dès le début, avant que le premier problème arrive, on sait que l'issue sera favorable. C'est quand même mieux de partir dans ces conditions-là que de ne pas savoir. Des fois, nous, on ne sait pas. Mais là, Moïse, il a eu cette révélation. Ça veut dire que Dieu a son plan. Quelquefois, il le révèle, quelquefois, il ne le révèle pas. Mais en tout cas, Dieu ne fait pas n'importe comment, il a son plan. Et Dieu dispose des temps et des circonstances, et on voit que Pharaon va être un instrument entre les mains de Dieu. Peut-être vous vous posez la question, mais comment se fait-il que Dieu va endurcir le cœur de Pharaon? Si vous regardez un petit peu l'histoire, vous verrez que Pharaon, c'est d'abord lui qui a endurci son cœur lui-même en rejetant Dieu et sa parole. Il a rejeté les propositions. Il n'a pas voulu laisser partir le peuple. C'est pour ça qu'il y a eu les 10 plaies d'Égypte. La 10e plaie, c'était la mort de tous les premiers-nés, y compris le fils même de Pharaon qui est mort. Et donc, il avait endurci son cœur. Et à un moment donné, ben, le cœur dur est là. Et Dieu laisse le cœur s'endurcir. C'est-à-dire que Dieu tend toujours la main. Mais si la personne endurcit son cœur, au bout d'un moment, ben, c'est Dieu qui va endurcir son cœur. Romains 9, 18 dit « Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. » Mais nous voyons que Dieu endurcit le cœur de ceux qui, eux-mêmes, endurcissent leur cœur. C'est-à-dire que c'est Pharaon qui s'est braqué contre Dieu, qui n'a pas voulu de Dieu, et Dieu ne l'a pas forcé à changer. Il lui a laissé sa liberté de choix, sa responsabilité. Eh bien, il a endurci son cœur jusqu'au bout. Et ainsi, Dieu l'a laissé dans son choix. Son endurcissement va causer sa perdition. Et c'est vrai encore aujourd'hui que ceux qui ont le cœur dur, ceux qui sont résistants aux choses de Dieu, ils seront précipités dans la mort éternelle, dans la perdition, parce qu'à la base, ils ont endurci leur cœur eux-mêmes et qu'ils n'ont pas voulu de la grâce de Dieu. Parce que si vous regardez d'autres versets, c'est bien dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Je vous en cite un, Hébreux chapitre 3, verset 15, il y en a plusieurs dans la Bible. « Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, c'est Dieu qui parle, n'endurcissez pas vos cœurs. » Vous voyez ce que je disais tout à l'heure? C'est bien les gens qui vont endurcir leur cœur, ce n'est pas Dieu qui l'endurcit, comme au jour de la révolte. Ça veut dire que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, mais que beaucoup d'hommes endurcissent leur cœur. Ils ne veulent pas croire, ils ne veulent pas se repentir. Même Jésus en personne était là sur la terre. Il n'y a pas plus puissant que le Seigneur Jésus, nous croyons. Il n'y a pas meilleur prédicateur que Jésus lui-même. Mais certains, à l'écoute du Seigneur Jésus, pourraient dire l'être humain le plus puissant qui a existé sur la surface de la terre, avec les paroles les plus inspirées qui ont existé, eh bien, ils endurcissaient devant lui-même, ils endurcissaient leur cœur. Et ils ne voulaient pas se repentir. Et à ce moment-là, eh bien, Dieu les laisse dans leur choix. Mais il leur dit, n'endurcissez pas vos cœurs, ça veut dire que si vous vous repentez, si vous croyez, ce cœur est brisé. C'est David qui le dit, ô Dieu, dans le psaume 51, ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Mais ce cœur brisé, c'est David qui se repent de ses péchés. Ça veut dire que si on se repent de ses péchés, on n'endurcit pas notre cœur et qu'on reçoit la bonne semence de la parole dans un bon cœur. Et ainsi, on est sauvé, parce que le plan, la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés, mais beaucoup endurcissent leur cœur. Donc, le cas de Pharaon, le cas aujourd'hui de tous ceux qui endurcissent leur cœur, nous le connaissons. En tout cas, la main de Dieu est toujours tendue pour sauver. La finalité de son plan, dans le verset qu'on a lu, Dieu révèle à Moïse la finalité du plan, je vais faire éclater ma gloire. Alors nous ne comprenons pas toujours. D'ailleurs, remarquez que Dieu ne dit pas comment il va faire éclater sa gloire. Il dit juste, les Égyptiens vont venir contre vous, mais moi je ferai éclater ma gloire. Sauf que Dieu ne lui révèle pas, tu vas voir Moïse, tu vas étendre ton bâton et la mer va s'ouvrir en deux. Et vous allez passer. Il ne lui révèle pas cette partie-là. Il lui révèle juste, tu vas voir, ils serviront à faire éclater ma gloire. C'est comme, avec Dieu, c'est comme si on a des parties, mais on n'a pas la totalité. On a des parties, il nous manque des éléments. Et il va falloir avancer par la foi, en gardant nos yeux sur la finalité. La finalité, c'est quoi ? Ben, Dieu va faire éclater sa gloire. On ne sait pas quand il va le faire, on ne sait pas comment il va faire, mais gardons nos yeux sur la finalité. Il va faire éclater sa gloire. Ça, ça reste. Et il ne va pas nous donner forcément tout le détail. Vous voyez, des fois, on a pas toutes les pièces du puzzle. Il manque des pièces. On se demande bien comment ça va se passer, comment il va agir, quand est-ce qu'il va agir, qui est-ce qu'il va susciter. On est coincé, on est dans une issue, on est dans une impasse. La mer nous empêche d'avancer. Les Égyptiens arrivent de l'autre côté. Il n'y a pas d'issue. La seule finalité qu'on doit garder devant les yeux, mais Dieu va faire éclater sa gloire. Un jour, Jésus voit en passant un aveugle de naissance. Les disciples lui posent la question. Est-ce que c'est lui qui a péché ou est-ce que c'est ses parents qui ont péché pour qu'il soit dans cette condition-là? Et Jésus dit, ce n'est pas ses parents ou lui, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Autrement dit, Dieu va faire éclater sa gloire dans sa vie. Et Jésus dit, je dois faire pendant le jour les œuvres de Dieu. L'heure vient où personne ne pourra travailler. Il dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Je vais faire éclater la gloire de Dieu. Et ainsi, il va cracher par terre, faire de la boue avec ses mains et appliquer la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dire, va, lave-toi au réservoir de Siloé. L'aveugle y va, se lave les yeux et il retourne en voyant clair. En fait, Jésus avait fait éclater la gloire de Dieu. C'était la finalité. Nous ne savons pas comment il va s'y prendre. Remarquez que le miracle est tout à fait particulier. D'ailleurs, cette manière de faire est unique. Jésus ne procédait pas toujours de la même manière. Mais la finalité, c'est qu'il a fait éclater la gloire de Dieu. Alors, il a pris un chemin, on pourrait dire comme un détour. Est-ce que Jésus avait vraiment besoin de faire de la boue avec sa salive, de l'appliquer sur les yeux de l'aveugle, de lui dire d'aller se laver au réservoir de Siloé? On dirait que c'est comme un détour pour arriver au point final. La finalité, c'était faire éclater sa gloire. Mais voyez, cet homme aveugle, il avait beau ne pas comprendre le sens ou l'intérêt de la chose, il a simplement obéi, il a fait ses pas, il est allé se laver au réservoir de Siloé et c'est là que le miracle s'est produit. Donc on a toujours raison d'obéir à Dieu quand bien même il nous semble que ce n'est pas la voie la plus directe. Ça, c'était le deuxième point. On voit bien qu'il y a un plan de Dieu. Le troisième point, c'est maintenant la réaction du peuple face à la réalité. Au verset 10. Le peuple regarde à la situation présente. Il voit les Égyptiens. Il voit Pharaon. Il voit les 600 chars d'élite, c'est-à-dire les meilleurs chars de l'époque, la meilleure armée, la plus puissante du monde. À cette vue, la foi des Israélites, quand ils sont sortis d'Égypte, elle était au top, top niveau. Ils étaient au top de la foi, au sommet, parce que la Bible dit « ils sont sortis la main levée ». Ah, ils sont sortis en vainqueurs d'Égypte, et même les Égyptiens leur donnaient de l'or, de l'argent, partaient au plus vite, ils leur donnaient des biens pour qu'ils partent encore plus vite. Ils sont partis, quand ils sont partis, attention, ils étaient fiers. La main levée. Mais là, quand ils voient l'armée qui revient les récupérer, leur foi qui était au sommet, elle est redescendue sous terre. C'est étonnant parce que quand on lit bien le texte, ça nous révèle sur la faculté de nos yeux à voir le négatif plus que le positif. Pourquoi ? Parce qu'ils voient l'armée d'Égypte tellement puissante, tellement énorme, mais la Bible dit qu'entre les Égyptiens et eux, il y avait une colonne de feu la nuit et une colonne de nuée le jour. Et c'est comme si la colonne de feu de Dieu et la colonne de nuée, ils ne la voyaient pas, alors que c'est la puissance de Dieu. Et je crois que c'est pareil pour nous. On voit facilement les difficultés, c'est-à-dire les Égyptiens, les chars d'Égypte, l'armée puissante, mais on ne voit plus, dans la même situation, on ne voit plus la colonne de nuée et la colonne de feu. C'est ça qu'il faut regarder. Et le peuple ne la voit plus. Et souvent, nous, pareil, nous regardons aux difficultés, on les trouve insurmontables, mais regardons vers la main de Dieu, vers la puissance de Dieu, vers la gloire de Dieu. Elle est là, mais c'est comme si nos yeux sont empêchés de la voir. Donc la première chose dans cette réaction, c'est d'abord la vue présente des difficultés est plus forte pour eux que la gloire de Dieu. Ensuite, la peur les saisit. Le texte dit qu'ils sont saisis de frayeur. Ils ont peur pour leur vie. Ils se voient déjà morts. Ils disent à Moïse, mais tu nous as même fait venir mourir au désert. Alors qu'ils ne sont pas morts, ils sont bien vivants, mais ils se voient déjà morts. C'est la réaction de la chair. Ils se voient déjà dans la défaite. Et c'est souvent aussi notre réaction, c'est-à-dire qu'on voit déjà la finalité de notre défaite avant même d'avoir combattu. Un jour, les disciples ont fait cette expérience dans la mer de Galilée. Ils étaient assez confiants parce que le Seigneur était avec eux dans la barque. Et si Jésus est avec nous dans la barque de notre vie, on peut être confiant, n'est-ce pas ? On peut croire que, voilà, si Jésus est avec nous, qui sera contre nous ? Ils sont confiants comme nous, on les confiant. Et ils traversent le lac et puis tempête. La tempête surgit, pourtant le Seigneur est là. Et en plus, le Seigneur, il dort. Et il a la tête du bateau, il dort. Et eux, les disciples, donc, ils sortent l'eau qui rentre dans le bateau. Et à un moment donné, ils réveillent le Seigneur. « Maître, maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Ils le disent au présent. Ils disent « Nous sommes en train de mourir. Nous périssons au présent, nous sommes morts. » Alors qu'ils étaient encore bien vivants. Mais Jésus se lève et dit à la tempête « Silence, tais-toi !» Et aussitôt le calme s'instaure. Ça, c'est la parole de Dieu. Jésus n'était pas inquiet, pourquoi ? Parce qu'il sait toujours que Dieu est capable de faire un miracle. Or, les disciples, eux, ils se voyaient déjà morts. Un petit peu comme les Égyptiens, les Israélites, quand ils voient les Égyptiens, ils se voient déjà morts. Alors que non, puisque le Seigneur est avec eux, eh bien, Jésus parle à la tempête, et là, on va voir tout à l'heure que Moïse, il va pouvoir parler à la mer pour que la mer s'ouvre en deux. La peur est un sentiment normal, et peut-être elle peut nous assaillir parfois. « Seigneur, comment vais-je faire ? J'ai perdu mon travail, des factures à payer, je ne m'en sors pas. Comment vais-je faire ? Je suis malade, comment vais-je guérir ?» Ça, c'est la peur. Eh bien, l'antidote à la peur, c'est la foi. La foi qui nous permet de nous appuyer sur les promesses de Dieu. Et un autre élément qu'on retrouve aussi chez le peuple, après la vue qui les fait chanceler, la peur qui vient dans leur cœur, c'est maintenant les paroles négatives qu'ils vont proférer. Le peuple dit à Moïse, mais on aurait mieux aimé rester en Égypte, même esclave, plutôt que de venir là au désert et te suivre. Là-bas, en Égypte, on avait au moins de quoi manger, on s'occupait de nous, il y avait toutes sortes de facilités. Ici, avec toi, c'est la mort. Et par leurs paroles, en fait, ils critiquent Moïse, mais ils critiquent Dieu, parce que Moïse, en fait, accomplit le plan de Dieu. Donc en critiquant Moïse, ils critiquent même Dieu qui les a fait sortir d'Égypte. Voilà le cœur de l'homme, prompt à murmurer, on se plaint facilement, on dit tout ce qui va mal. Et même chez certains, vous remarquerez que les plaintes, les gémissements ou les critiques, c'est leur manière de parler. C'est devenu leur identité. Et en fait, quand ils ne critiquent, En fait, quand il parle, il critique naturellement. C'est devenu comme une nature. Et ça, c'est quelque chose dont nous devons nous débarrasser en tant que chrétiens, parce que les critiques, en fait, nuisent à notre foi et à notre vie spirituelle. Au contraire, Paul dit, Philippiens 4:4, il dit, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Donc, il y a vraiment une insistance sur être dans la joie, être dans la foi, être dans l'amour, et rejeter toutes les paroles vaines, toutes les paroles futiles, toutes les paroles qui critiquent Dieu, qui critiquent les serviteurs de Dieu, qui critiquent les autres chrétiens. Pourquoi a-t-on tellement de mal à se réjouir? Et pourquoi est-ce qu'on se plaint si facilement? Eh bien, c'est tout simplement que la chair domine. Si la chair domine dans votre vie, vous allez voir que les plaintes vont venir facilement. Mais si c'est l'esprit qui domine dans votre vie, vous allez voir que c'est la joie et la louange qui va venir le plus facilement. Et donc, la parole de Dieu nous apprend à vivre non par la chair, mais par l'esprit, et à triompher de la chair par l'esprit. Et là, on arrive au contentement. C'est ce que Paul explique dans Philippiens 4:11. « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. » Et plus d'une fois, Paul aurait pu se plaindre en critiquant l'un, en jugeant l'autre, qu'il avait abandonné, qu'il avait quitté, etc. Mais il dit « J'ai appris à être content. » Mais il l'a appris comment? Il l'a appris dans la parole de Dieu, au pied du Seigneur, dans la prière, dans la foi. Sa foi a été fortifiée. Dans l'état où je me trouve, au lieu que ce soit des plaintes, des jugements, des critiques, et de condamner l'un et juger l'autre, il a appris à vivre différemment. Maintenant, regardons la réaction de Moïse. On a vu la réaction du peuple. La réaction de Moïse se trouve au verset 13. C'est d'abord la vision. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Moïse voulait ramener le peuple à la vision des bonnes choses que Dieu fait. Le peuple, lui, regardait vers les difficultés du temps présent. Eh bien, aujourd'hui encore, regardons vers la main de Dieu, regardons vers l'Éternel, la délivrance qu'il va opérer. Alors, la délivrance n'est pas arrivée, hein, mais notez que Moïse dit, regardez la délivrance. Elle n'est pas encore là, mais elle arrive. Et Moïse leur demande, en fait, de développer un regard de foi, c'est-à-dire regarder les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est ça la foi. Paul enseigne la même chose aux Corinthiens, 2 Corinthiens 4:16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Pourquoi nous ne perdons pas courage? Même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, et c'est ça la clé finalement que l'on retrouve chez le vrai chrétien. Nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Les choses visibles sont passagères, les invisibles sont éternelles. C'est ce que Moïse tente de faire avec le peuple, dire « regardez pas aux choses visibles, regardez vers les choses invisibles, regardez vers la main de Dieu et tout ce que Dieu va faire. » Et cette vision qui n'est pas naturelle, mais qui est spirituelle, c'est ça qui produit en nous l'encouragement. Nous ne perdons pas courage, dit Paul. Mais le peuple perd courage parce qu'il regarde à l'envers. Il regarde à tout ce qui est négatif. Et si je regarde d'une manière naturelle ce soir, je vais être découragé. Alors c'est pour ça que Paul dit, mais nous ne regardons pas comme ça. Nous regardons, nous avons appris à regarder d'une autre manière. La paix, ensuite, après avoir invité le peuple à ouvrir les yeux de la foi, il dit, mais restez dans la paix. Il dit, regardez, au verset 13, ne craignez rien. Il dit, restez en place. À l'angoisse du peuple, Moïse répond par la paix surnaturelle que Dieu va nous donner. Le monde ne connaît pas cette paix-là. Le monde paye pour trouver un petit peu de paix, pour dormir un peu plus. Mais Jésus est le seul qui est capable de nous donner une paix dans la tempête, une paix dans l'épreuve, c'est Philippiens 4:7, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Recevez la paix de Dieu dans l'épreuve. Et troisième élément qu'on trouve encore dans ce passage au verset 14, toujours dans la partie de la réaction de Moïse, il leur dit, verset 14, « Taisez-vous. » Il leur dit « L'Éternel combattra pour vous, mais vous gardez le silence. » Moïse sait très bien que le fait de parler à tort et à travers est néfaste pour la foi. Et parfois, il vaut mieux se taire plutôt que de parler à tort et à travers et de dire des paroles négatives qui vont détruire notre relation avec Dieu. Les paroles, c'est comme une arme. Il fallait que le peuple se taise, parce que plus le peuple parlait, plus il s'auto-décourageait et décourageait les autres, qui étaient peut-être encore courageux, mais qui, à cause des paroles de ceux qui sont découragés, étaient eux-mêmes découragés. Donc, ça faisait boule de neige. Donc, apprenons nous-mêmes à bloquer les paroles qui ne sont pas inspirées, comme celle du peuple ici, parce qu'une chose est de l'avoir en pensée, déjà, s'il le pensait, c'était déjà pas bien, mais en fait, de le dire, ça donne encore plus de puissance à cette mauvaise pensée. C'est pour ça, Ecclésiaste 5, 1 dit, « Ne te presse pas d'ouvrir la bouche, et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre, que tes paroles soient donc peu nombreuses. » Et on voit que nos paroles reflètent le fond de notre cœur. Je termine avec le passage de la mer Rouge, ça se trouve au verset 21, parce que jusqu'à présent, Moïse a parlé des paroles de foi, mais finalement, lui-même, il ne sait même pas qu'est-ce que Dieu va faire exactement. Nous, on le sait parce qu'on l'a lu, on l'a relu, on connaît bien ce passage. On a toujours un temps d'avance sur Moïse. Moïse, il sait juste que Dieu va faire éclater sa gloire, mais il ne sait pas comment. Donc, notre part, c'est la prière, c'est la foi. La part de Dieu, c'est « il va faire éclater sa gloire ». Et donc, on le retrouve au verset 21. « Dieu ordonne à Moïse, prends ton bâton, tu vas fendre la mer en deux. » Et Exode 14, 21, « Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit, et il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël passèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. » Voilà comment s'est passé le miracle de la mer Rouge, donc qui s'est ouverte en deux. Ils sont passés au milieu de la mer. Quand les Égyptiens ont vu que le peuple passait, ça c'est le miracle de Dieu, ils ont dit, nous allons les poursuivre à travers la mer. Et ils ont, avec leurs chars, leurs chevaux, poursuivi le peuple d'Israël, sauf que les roues de leurs chars se sont embourbées dans le fond de la mer. Dieu a fait en sorte que les roues se détachent et ils ont été prisonniers, de sorte que Dieu a dit à Moïse, maintenant tu vas ordonner que la mer se referme, et la mer s'est refermée sur les Égyptiens alors qu'ils étaient encore embourbés au milieu de la mer. En conclusion, nous voyons bien comment Dieu agit. Peut-être aujourd'hui même vous êtes dans une situation sans issue, mais j'aimerais rappeler, et avec ce texte et avec la parole de Dieu, que même si nous ne voyons pas d'issue, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'issue et que Dieu n'est pas capable de créer une issue qui n'existe pas. Parce qu'en réalité, la mer, il n'y avait pas de passage. D'ailleurs, il n'y a pas de route dans la mer. C'est informe. Donc, on ne peut pas penser qu'il y avait une issue là devant. Donc, Dieu peut créer une issue là où il n'y a pas d'issue. Dieu nous conduit aussi parfois dans des détours. Et on peut être conduit par Dieu pour aller là, par exemple, et de passer par là. Et de faire un grand détour. Et tout en étant conduit par Dieu. Alors que sur le plan logique, il aurait mieux valu aller directement par une ligne droite. En réalité, la logique de Dieu n'est pas notre logique. Nous devons apprendre plutôt à faire ce que Dieu demande. Ce que nous devons faire, c'est garder la bonne vision, ça c'est l'enseignement de Moïse. Développer donc une bonne vision, garder la paix et aussi garder le silence pour ne pas tomber dans le piège du peuple qui, par ses paroles, se décourageait. Dieu, lui, s'occupera du reste. C'est Dieu qui ouvre la mer en deux. C'est Dieu qui combat pour nous. Et c'est Dieu qui va détruire tous nos ennemis dans sa grâce, dans sa bonté. Prions le Seigneur. Merci encore pour ta parole, pour ta fidélité, pour ta grâce. Et nous voulons, Seigneur, développer cette foi comme Moïse, homme de Dieu, qui a su voir dans cette situation d'impasse, Seigneur, que tu es celui qui crée un chemin nouveau, qui crée des possibilités nouvelles, qui est capable de transformer une situation sans issue et même créer un chemin qui n'existe pas. Seigneur, nous te prions pour que nous puissions développer cette vision de foi, avoir la paix dans notre cœur, alors même qu'il n'y a aucune possibilité là, au jour d'aujourd'hui. Mais Seigneur, de croire que toi, tu vas faire le miracle, que tu vas encore étendre ta main, que tu vas encore glorifier ton nom. Oui, ce soir, nous voulons croire que tu vas faire encore éclater ta gloire, que tu vas encore manifester ta puissance, alors même que les situations sont bloquées, alors même qu'il n'y a aucun espoir sur le plan humain. Eh bien, ce soir, nous ne voulons pas regarder comme le monde, nous ne voulons pas regarder à vue humaine, mais nous voulons voir avec les yeux de la foi. Oui, Seigneur, nous te contemplons, couronné de gloire et d'honneur, nous te contemplons assis sur ton trône. Et Seigneur, tu dis un mot et la chose arrive, Seigneur. Tu transformes les situations bloquées et tu en fais des situations de possibilités nouvelles. Merci Jésus de glorifier ton nom et d'étendre encore ta main pour que toi seul tu sois glorifié. Amen.